Bonjour. C'est super de vous revoir tous après la fête. On a passé un super moment. L'équipe qui est allée au Colorado. Vous avez peut-être déjà entendu Monsieur Pack en parler, mais je vais le redire, parce qu'on était là avec lui et on a vraiment passé une super fête tous ensemble au Colorado, puis à Rogers, en Arkansas. Les paysages étaient vraiment magnifiques. Merveilleux. La communion fraternelle était tout simplement exceptionnelle. Les frères étaient chaleureux et aimants, et c'était vraiment la meilleure fête de tous les temps. Et je ne dis pas cela de manière banale. C'était vraiment une fête fantastique. Passons à un sujet qui découle de la fête, un sujet que certains d'entre nous ressentent peut-être. C'est un sermon sur les sentiments. J'aime parler des sentiments. Je plaisante. C'est un sermon qui parle en quelque sorte des sentiments. On peut tous ressentir ce sentiment après la fête, et vous comprendrez ce que je veux dire quand j'aurai posé le contexte. Il y a un terme qui s'appelle signe avant-coureur. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Un signe avant-coureur. C'est quelque chose qui montre qu'un truc mauvais ou dangereux est sur le point d'arriver, ou est déjà arrivé. Pensez à un signe avant-coureur. On entend des signes avant-coureurs. Quand les sirènes se mettent à retentir parce qu'une tornade approche, c'est un signe avant-coureur. C'est imminent. Un danger imminent approche. Mais il y a aussi d'autres signes avant-coureurs. Pensez aux juifs du premier siècle, ils voyaient, ils étaient capables de discerner les signes dans le ciel. D'accord? Ils pouvaient regarder le ciel et voir à l'avance si le temps serait beau ou mauvais le lendemain. C'était une sorte de signe avant-coureur pour les juifs et pour tout le monde. Pas seulement pour les juifs. Y avait-il quelqu'un au premier siècle qui savait lire le ciel? Ils pouvaient le faire. C'était une sorte de signe avant-coureur pour eux. Mais ce sont des signes avant-coureurs qui annoncent quelque chose qui va se produire. Il y a aussi des signes avant-coureurs qui indiquent que quelque chose de grave s'est déjà produit. Pensez à un bâtiment. J'ai fait des études d'architecture et je m'y connais un peu. À première vue. Je vais juste vous lire quelque chose sur un signe avant-coureur en architecture. À première vue, les fissures capillaires dans les cloisons sèches intérieures peuvent sembler être un problème superficiel ou esthétique. Quelque chose qui peut être facilement réparé ou repeint. Vous en avez peut-être déjà vu chez vous ou dans certains bâtiments. Des fissures dans les cloisons sèches. Les propriétaires considèrent souvent ces imperfections mineures comme le résultat du tassement naturel du bâtiment au fil du temps. Cependant, lorsque ces fissures s'accompagnent de motifs tels que des fissures en escalier qui s'élargissent avec le temps, ou apparaissent près des portes et des fenêtres qui commencent à coincer ou à se désaligner, elles peuvent indiquer un problème structurel beaucoup plus grave, à savoir la fondation. Un SAB 2247-251-1018 AJH sermon de mouvement ou une défaillance potentielle. Ainsi, ce qui ressemble à une petite fissure dans le mur peut en fait indiquer une défaillance des fondations en cours, déjà survenue ou commençant à se produire. Les problèmes de fondation peuvent être causés par des mouvements de terrain, un mauvais drainage ou des pratiques de construction non conformes aux normes. S'ils ne sont pas traités, ils peuvent entraîner une grave instabilité structurelle, notamment des sols irréguliers, des murs porteurs compromis et, dans les cas extrêmes, l'effondrement partiel du bâtiment. Je me souviens d'un cours à l'école où j'ai entendu cela et cela m'a vraiment fait réfléchir. Un prof est venu parler à notre classe. C'était un architecte. Ou plutôt, c'était un ancien architecte. Il est venu nous parler d'un bâtiment qu'il avait conçu et qui s'était effondré, tuant plein de gens à l'intérieur. Il nous a prévenus à l'avance des dangers de ne pas s'occuper correctement de la structure du bâtiment, en s'assurant que tout est en ordre, y compris les fondations, et que ce sur quoi elles reposent est très important. Ces fissures apparemment mineures sont des signes avant-coureurs d'un système, excusez-moi, sous contrainte. Une évaluation structurelle appropriée est essentielle pour déterminer si le bâtiment est sûr ou si des réparations coûteuses et invasives des fondations sont nécessaires de toute urgence. Ignorer ces signes pourrait avoir des conséquences catastrophiques, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan financier. Bon, dans le cas des bâtiments, on peut voir les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs sont partout. Vous savez, c'est incroyable. C'est comme cela que cela se passe dans la vie. La vie est remplie de signes avant-coureurs. Pense à ta santé. Il y a cette chose qu'on appelle l'anémie, si tu la connais. L'anémie, qui se caractérise par une carence en globules rouges ou en hémoglobine, se manifeste souvent par des symptômes légers tels que la fatigue, la pâleur, des vertiges ou un essoufflement. Bien qu'elle puisse sembler être un problème mineur en soi, l'anémie peut parfois être le symptôme d'une affection sous-jacente beaucoup plus grave. C'est pourquoi, parfois, quand on constate une anémie, on refait des tests. En fait, on peut soigner l'anémie, on peut la guérir. Mais le problème, c'est que l'anémie est souvent un indicateur ou un signe avant-coureur d'un problème plus grave, plus profond, dans votre corps. Par exemple, une perte de sang chronique due à un ulcère hémorragique ou à des règles abondantes peut entraîner une anémie. Cependant, des saignements dus à un cancer du côlon ou à une maladie de la moelle osseuse. Excusez-moi. Cependant, lorsque l'anémie survient sans cause apparente, en particulier chez les personnes âgées, elle peut indiquer quelque chose de plus grave, comme une hémorragie gastro-intestinale due à un cancer du côlon ou un trouble de la moelle osseuse comme la leucémie. Vous pourriez donc être, et vous pourriez avoir une sorte de cancer des os horrible ou une leucémie ou quelque chose comme cela, sans le savoir. Mais vous ne le sauriez vraiment qu'en voyant le premier signe avant-coureur de l'anémie. Dans ces cas-là, l'anémie sert de signal d'alarme plutôt que de problème principal. Le patient peut consulter un médecin juste parce qu'il se sent super fatigué, ou des examens plus poussés peuvent révéler une tumeur maligne cachée ou une maladie auto-immune qui empêche la production de globules rouges. Donc cela continue. Du coup, même si l'anémie en elle-même peut être traitée, sa présence devrait pousser à faire des examens approfondis pour écarter tout problème grave caché. Revenons-en à ce dont on a parlé à propos de la fête. On peut avoir un certain sentiment après la fête, qui est assez naturel, je dirais, mais ce n'est pas seulement après la fête. C'était Sabé 2247-251-1018 à J.H. Sermon 3 peut-être une façon mineure de le décrire. C'est ce qu'on appelle le sentiment de découragement. Le découragement. Maintenant, je vais poser la question suivante. Un chrétien devrait-il jamais, jamais, dans un monde idéal, se sentir découragé? Un chrétien devrait-il jamais se sentir découragé? Prenons un moment pour y réfléchir. Discutons-en, car c'est important pour comprendre ce message. Bien sûr, on va tous se sentir découragés à certains moments. Ça ne fait aucun doute. Tout le monde se sent découragé. La question est de savoir si, dans une vie chrétienne idéale, si on menait une vie chrétienne parfaite, on ne devrait jamais se sentir découragé. On ne devrait jamais se sentir découragé? Est-ce que le fait qu'on se sente découragé de temps en temps rend cela acceptable? Ou est-ce que le découragement est une sorte de signe avant-coureur, un indicateur que quelque chose ne va pas dans notre vie, dans notre esprit? Le découragement est un sentiment assez fondamental. On l'a tous ressenti. Ouvrons le Deutéronome, chapitre 31, pour lire l'histoire de Moïse. Moïse savait que le peuple, et Dieu savait que le peuple sous Moïse après sa mort, pouvait se décourager. C'est pourquoi, au début du Deutéronome 31, on lit, dès le verset 1, Moïse alla parler à tout Israël. Il leur dit, « Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Je ne peux plus sortir ni entrer. De plus, le Seigneur m'a dit, « Tu ne passeras pas ce Jourdain. » Moïse n'a donc pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Le Seigneur ton Dieu passera devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu les posséderas. Josué marchera devant vous, comme l'a dit le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, comme il l'avait fait à Sion, à Og, roi des Amoréens, et au pays de ceux qu'il avait détruits, et le Seigneur les livrera devant vous, afin que vous leur fassiez selon tous les commandements que je vous ai donnés. Comment on sait que Dieu a dit ou cru, et que Moïse a donc cru, qu'Israël serait découragé à la mort de Moïse? Parce que Dieu a inspiré Moïse pour qu'il dise, « Sois fort et courageux. Sois encouragé. Aie du courage. Ne te décourage pas. Ne craignez pas et ne les redoutez pas, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui marche avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui conduiras ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui leur en feras hériter le pays. Et voici le dernier verset, et c'est le Seigneur qui va devant toi. Il sera avec toi. Il ne te laissera pas tomber et ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne sois pas déconcerté. Qu'est-ce que cela veut dire, être déconcerté? Ne te laisse pas décourager. Ne sois pas triste. Ne te décourage pas parce que Moïse va mourir et que Josué va te conduire dans la terre promise. Au contraire, sois encouragé, Dieu voulait qu'ils aient du courage. Le découragement, eh bien, nous le ressentons tous. C'est une émotion que le diable peut utiliser très efficacement, je tiens à le préciser. Il peut l'utiliser sur nous tous pour s'assurer que nous tombions dans ce découragement. Et c'est un mauvais cercle vicieux. Disons-le ainsi. Si on se laisse aller au découragement, si on laisse le découragement s'installer et prendre racine en nous, le découragement peut finir par nous entraîner dans une spirale descendante vers la dépression. Ou cela peut nous amener à penser que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus moyen d'avancer. Que tout est fini. Autant abandonner. C'est là où mène le découragement. Le découragement n'est pas quelque chose qu'on devrait ressentir. Mais si on le ressent, et quand on le ressent, ce qui arrivera forcément, parce qu'on est AB 2247-251-1018 AJH Sermon 4 et tous des êtres humains, on ressentira du découragement. Mais si on le ressent, plutôt que de succomber à ce sentiment qui nous enfonce davantage dans le découragement et la dépression, on doit prendre du recul et réfléchir logiquement. Réfléchir rationnellement. Ne pas y penser de manière émotionnelle. Et on doit s'attaquer précisément à la cause de notre découragement et la trouver. Si on se sent découragé, la seule chose à faire, mes frères, c'est de prendre du recul et de se demander, qu'est-ce qui cause cela? Parce que, comme je l'ai dit, les fissures dans les murs en plaque plâtre sont un signe avant-coureur d'un problème plus profond dans les fondations. L'anémie est un signe avant-coureur d'un problème de santé plus grave auquel on est confronté. C'est à nous, mes frères, de regarder plus profondément en nous-mêmes et de nous poser la simple question, pourquoi est-ce que je me sens découragé? Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce qui y conduit? Et nous devons y réfléchir de manière logique, rationnelle et non émotionnelle. Satan veut que nous laissions nos émotions prendre le dessus. Il veut que nous nous mettions en colère. Il veut que nous soyons découragés. Il veut que nous soyons frustrés par les autres. Il veut que nos émotions s'emballent. Dieu dit qu'on doit devenir émotionnellement mature. On doit savoir comment contrôler nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir insensible, mais ce qu'on doit faire, surtout quand on est découragé, c'est comprendre ce qui cause cela, ce qui y mène. Maintenant, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se décourager, et je vais en mentionner quelques-unes. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle servira en quelque sorte de base au message qui va suivre. Écoutons attentivement ces différentes raisons. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle nous aidera. Peut-être qu'on peut s'y identifier. Peut-être qu'il y a certains points auxquels on peut vraiment s'identifier et se dire, tu sais quoi, c'est une raison vraiment importante de découragement dans ma vie. Ou non, celui-là n'est pas grave. Celui-là, en revanche, est assez grave. Passons-les en revue et comprenons certaines des principales causes de découragement. Tout d'abord, si on pêche et qu'on voit que le péché peut nous conduire au découragement, c'est assez évident. Peut-être qu'on pêche, mais qu'on continue à échouer à plusieurs reprises dans nos tentatives pour le surmonter. On a du mal à le surmonter. On a du mal à éliminer le péché de notre vie. On voit qu'il est là, mais on a l'impression de ne pas avoir les outils nécessaires. On n'a pas la capacité de le vaincre, une fois pour toutes. Et quand on se voit échouer à plusieurs reprises dans nos tentatives pour le surmonter, on voit le découragement commencer à s'installer. Peut-être qu'une partie de ce découragement vient du fait qu'on place la barre trop haut pour nous-mêmes. On se fixe des objectifs dans la vie. La vie est pleine d'objectifs, et on peut se fixer des objectifs très élevés, ou on peut se fixer des objectifs plus modestes. Et peut-être que nos objectifs sont trop élevés, et qu'on ne les atteint pas. Et comme on n'atteint pas nos objectifs et qu'on n'arrive jamais à les surmonter, cela nous décourage. Et si on se compare aux autres? Je peux me comparer aux autres de plein de façons. Je peux regarder l'apparence physique. Je peux regarder les talents et les capacités. Je peux regarder l'intelligence. Je peux regarder plein de choses qui me permettent de me comparer aux autres. Et souvent, quand je regarde les autres, je peux me décourager et me dire, tu sais quoi? Ils sont vraiment bons dans ce domaine. J'aimerais avoir ce talent ou cette capacité. Et on peut SAB 2247-251-1018-AJH sermon 5 se regarder et se décourager parce qu'on n'est pas à la hauteur des normes que les autres peuvent avoir. Peut-être qu'on cherche l'approbation des autres, et quand on voit qu'on ne l'obtient pas, on se décourage parce qu'on essaie d'obtenir leurs éloges. On essaie d'obtenir leur approbation dans la vie, dans tout. Et quand ils ne nous donnent pas cette approbation, je pense aux parents. Tu sais, c'est très facile de décourager un enfant si tu le mets en colère, il peut se décourager. Il peut chercher ton approbation. Et si un parent ne donne jamais son approbation à son enfant, cela peut être décourageant pour l'enfant. Eh bien, en tant qu'adulte, on peut aussi chercher l'approbation des autres. On peut chercher leurs compliments, etc. Et au bout du compte, si on ne les reçoit pas, cela peut nous décourager. Peut-être qu'on a une peur irrationnelle ou paralysante. Il y a des peurs qu'on peut avoir dans cette vie qui peuvent nous décourager. Peut-être qu'on voit qu'on ne peut pas surmonter cette peur. On la regarde, et elle est intimidante. Certaines personnes ont peur de parler. Certaines personnes ont peur de tout et n'importe quoi. Et si cette peur irrationnelle ou paralysante vous submerge, elle peut vous décourager. En voici une importante. Peut-être nous sentons-nous seuls. Peut-être nous sentons-nous isolés. Cela peut aussi mener au découragement. Il y a beaucoup de personnes seules dans cette vie, dans ce monde. Et j'imagine que la plupart des personnes seules ne sont pas très heureuses, ne sont pas très encouragées, parce qu'elles ne sont tout simplement pas en contact avec les autres. C'est une grande joie de pouvoir fraterniser avec les gens. C'est une grande joie de pouvoir interagir et créer des liens avec les autres. Dieu nous a créés de telle manière qu'il est bon pour nous de le faire. Et si on est seul, si on est isolé et coupé du monde, pensez à une personne âgée assise dans une maison de retraite. Elle peut très vite se décourager et finir par mourir parce qu'elle n'est pas avec d'autres personnes. C'est triste. Que diriez-vous de cela? On peut se décourager si on vit un espoir différé. Un espoir différé, dit la Bible, rend le cœur malade. On peut tomber physiquement malade. Votre cœur peut devenir malade et découragé si vous avez un très grand espoir dans la vie. Et quand vous voyez cet espoir s'évanouir, disparaître, vous vous découragez à cause de cela. Peut-être qu'on perd l'espoir d'atteindre quelque chose qu'on désirait. Et enfin, le dernier point que nous allons aborder, c'est le fait de vivre une expérience traumatisante. Si quelqu'un vit une expérience traumatisante ou une épreuve vraiment difficile, cela peut parfois être très décourageant pour nous aussi. Cela peut être très décourageant pour nous quand on voit quelque chose de dévastateur se produire dans notre vie. Peut-être que cela échappe à notre contrôle. Peut-être qu'on ne peut rien y faire, mais cela nous décourage quand même. Peut-être qu'on en est la cause, peut-être pas. Peut-être qu'on a joué un rôle dans cette épreuve, peut-être pas. On ne pouvait rien faire. Mais Dieu a permis cette épreuve. Parfois, les épreuves en elles-mêmes peuvent être très, très décourageantes. Et j'ai lu un autre élément que j'avais oublié ici. Parfois, on peut mal accepter les corrections. Si on les accepte mal, cela peut aussi mener au découragement. N'est-ce pas? Si on est corrigé pour quelque chose qu'on a mal fait et qu'on se dit « Eh bien, je me sens très mal », on finit par se décourager. Le découragement peut prendre différentes formes. Il y a plein de raisons qui peuvent nous décourager. Toutes celles que je viens de lire sont différentes les unes des autres. Les circonstances sont différentes, ce qui les a provoquées est différent. Mais au final, elles mènent toutes à. Toutes ces routes mènent à un seul chemin, à une seule émotion appelée découragement. SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 6 et je le répète. Toutes les raisons qui nous découragent reviennent à quelque chose qu'on fait peut-être mal ou qu'on pourrait faire différemment. Pour beaucoup de ces causes de découragement, il est facile de voir où on fait quelque chose de mal. Pensez à certaines des choses dont on vient de discuter. Il est facile de voir d'où vient le découragement si on pêche. Si on pêche et qu'on se décourage à cause de cela, il est évident qu'on fait quelque chose de mal et qu'on a joué un rôle dans ce découragement. Quand on pêche et qu'on n'arrive pas à surmonter cela, c'est parce qu'on ne fait pas assez pour éradiquer le péché. Si on se décourage parce qu'on voit clairement le péché dans sa vie, on sait qu'on a joué un rôle dans ce découragement, car c'est nous qui péchons. Ce n'est pas notre voisin qui pêche et qui nous décourage parce qu'on le voit. Non. C'est vous qui péchez, et cela mène au découragement. Vous avez joué un rôle là-dedans. De la même façon, si on continue à échouer à surmonter ce péché à plusieurs reprises et qu'on se décourage, là encore, c'est facile de voir où on échoue. C'est parce qu'on n'en fait pas assez, on n'agit pas assez, et on verra dans un instant quel genre d'action on peut entreprendre. On n'en fait pas assez pour éradiquer le péché. Peut-être qu'on ne jeûne pas assez. Si on voit qu'on n'arrive tout simplement pas à surmonter le péché et qu'on se décourage à cause de cela, que faut-il faire? C'est peut-être parce qu'on ne jeûne pas assez. On ne prie pas assez. On n'étudie pas suffisamment ce que la parole de Dieu dit à propos du problème qu'on traverse. Peut-être qu'on ne se fait pas assez conseiller. Et encore une fois, peut-être que nous plaçons la barre trop haut pour nous-mêmes dans les objectifs que nous nous fixons, ce qui conduit à des objectifs irréalistes. Mais le problème est assez simple. Nous devons nous fixer des objectifs plus raisonnables et nous devons agir davantage. Considérons la cause du découragement dont nous avons parlé il y a un instant, à savoir le fait de nous comparer aux autres. Si nous sommes découragés parce que nous nous comparons aux autres, le problème est que nous nous comparons aux autres. Passons au chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens. Certaines de ces causes de découragement sont assez faciles à comprendre, car on sait où on échoue. La plupart du temps, c'est aussi dans notre tête. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Verset 11. Que celui-là pense ceci, tel que nous sommes en parole par nos lettres lorsque nous sommes absents, tels nous serons aussi en action lorsque nous serons présents. Car nous n'osons pas nous compter parmi eux, ni nous comparer à certains qui se recommandent eux-mêmes, mais ils se mesurent à eux-mêmes et se comparent entre eux, et ils ne sont pas sages. Maintenant, si on se rend compte qu'on se décourage parce qu'on se compare aux autres, qu'on regarde les autres et qu'on voit nos lacunes, et qu'on se décourage à cause de cela. Ou peut-être que la jalousie peut être liée à ce découragement. On aimerait avoir les talents qu'ils ont. On aimerait ressembler à cette personne. On aimerait pouvoir parler comme cette personne, quoi que ce soit. On se décourage à cause de cela. On devient jaloux d'une certaine manière. Ce verset dit qu'on ne devrait tout simplement pas faire cela. On ne devrait pas se comparer les uns aux autres. C'est insensé. Ce n'est pas sage. La Bible le dit, Paul le dit. La raison pour laquelle ce n'est pas sage, c'est parce que cela nous conduit à nous décourager, et cela fait le jeu de Satan. Si on choisit de se comparer les uns aux autres, attendez-vous à être découragé et sachez que vous faites le jeu de Satan. Il veut qu'on soit découragé. Donc, si on décide de SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 7 commencer à se comparer les uns aux autres, mes frères, on doit s'attendre à être découragé à un moment donné. Ce n'est pas sage. Et qu'en est-il de l'approbation des autres? Si on se décourage parce qu'on ne reçoit pas l'approbation des autres, c'est qu'on se concentre trop sur le fait de plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Allez au chapitre 1 de l'Épître aux Galates. Parfois, on peut se décourager parce qu'on veut l'approbation des autres. Vous savez, naturellement, nous voulons être loués. Naturellement, en tant qu'êtres humains, nous aimons recevoir des compliments. Ce n'est pas grave. Mais si nous recherchons l'approbation des autres, est-ce là l'objectif que Dieu veut que nous ayons? Car si nous recherchons l'approbation des autres, nous pouvons finalement nous décourager, comme le dit Galates 1, verset 10. Est-ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes, ou à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. On ne devrait pas chercher à plaire aux hommes. Qui devrions-nous chercher à satisfaire à la place? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 23. On n'est pas sur cette terre pour essayer de plaire aux autres êtres humains. Si on essaie de plaire à notre pasteur, par exemple, c'est une mauvaise attitude. On peut plaire à notre pasteur si on cherche plutôt à plaire à Dieu. Si on s'efforce de plaire à Dieu, on finira par plaire à notre pasteur. On finira par plaire aux frères et sœurs qui nous entourent. Il n'y a aucune raison de chercher à obtenir l'approbation de votre pasteur. Il n'y a aucune raison de chercher à obtenir l'approbation de personnes qui sont au-dessus de vous. Si nous faisons finalement ce qui est juste et cherchons à plaire à Dieu avant tout être humain, les personnes qui sont sous l'autorité de Dieu et qui sont en accord avec sa façon de penser seront satisfaites. Et même les personnes qui ne sont pas en accord avec les vérités de Dieu seront également satisfaites. Vos patrons au travail qui ne savent rien de la vérité, s'ils voient que vous suivez et essayez de plaire à Dieu dans toutes vos actions, croyez-moi, ils seront également satisfaits de vos efforts au travail. Ils seront également satisfaits. Colossiens chapitre 3, verset 23. Et quoi que vous fassiez, quoi que ce soit, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que c'est du Seigneur que vous recevrez la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur, Christ. Mais celui qui fait le mal recevra le mal qu'il a fait, et il n'y a pas d'accommodement. Chercher à plaire à Dieu, c'est comme cela qu'on peut rester complètement à l'écart de tout découragement. Si on abaisse nos normes et qu'on essaie seulement de chercher à plaire aux hommes, on va se décourager, mes frères. C'est aussi simple que cela. Mais si on élève nos standards, si on cherche Dieu, si on cherche à plaire à Dieu avant tout, on ne sera pas découragé. Si on se sent découragé par la correction, c'est qu'on ne l'accepte pas bien. Proverbe chapitre 3. Bien sûr, on peut être découragé par la correction. Personne n'aime être corrigé. Mais si on l'est, ce n'est pas parce qu'on est corrigé que c'est un problème. C'est parce qu'on ne l'accepte pas bien. Proverbe chapitre 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la discipline ni la correction du Seigneur. Ne te lasse pas de sa correction. Ne te lasse pas. Ne te décourage pas. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Mes frères, le découragement est simple. On se décourage souvent parce qu'on voit trop petit. On ne voit pas grand. On ne pense pas au but plus grand que Dieu construit en nous à travers la correction. On est censé chérir la correction, car le Seigneur aime ceux qu'il corrige, tout comme un père aime son fils. Les pères ne corrigent pas leur fils parce qu'ils le détestent. SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 8 Chacun aime leur fils. Ils corrigent leur fils parce qu'ils l'aiment. Ils veulent qu'il s'améliore. Ils veulent qu'il devienne quelqu'un de bien. C'est aussi ce que Dieu veut. Quand on est corrigé, si on le prend mal, c'est pour cela qu'on se décourage. Mais si on le prend bien, on ne se décourage pas du tout. En fait, on est encouragé. Le verset suivant décrit clairement le découragement qui vient de la correction et comment le surmonter. Allez à Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 11. Toute correction, ou correction, semble être joyeuse pour le moment, mais douloureuse. C'est la parole de Dieu. Elle dit, non, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais de moment où on est corrigé et où on ressent naturellement une grande joie. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Néanmoins, elle produit ensuite un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par elle. Si tu acceptes la correction et que tu t'exerces à partir de la correction, tu ne te sentiras peut-être pas bien pendant que cela se passe. C'est pourquoi il est dit, au verset 12, « Relève les mains qui tombent. Cesse d'être découragé par cela. Et les genoux qui faiblissent. » Tu sais, si tu te sens affaibli, ou si tu as l'impression de rester éveillé la nuit parce que tu as été corrigé, ou si tu te sens faible à cause de cela, ou découragé. Relève les mains qui tombent, et les genoux qui faiblissent. Et trace des chemins droits pour tes pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Si tu laisses le découragement s'installer et rester là, la correction n'aura servi à rien. Elle n'aura pas été utile. En fait, elle a même été nuisible, parce que tu as succombé à ce terrible sentiment de découragement. Et au lieu de l'utiliser pour te pousser à surmonter ce pourquoi tu as été corrigé, tu l'as laissé te vaincre. Donc, mes frères, si nous nous sentons découragés à cause d'une correction, c'est parce que nous ne l'acceptons pas correctement. Nous devons bien accepter la correction. C'est pour notre bien et c'est parce que Dieu nous aime. C'est pour cela. C'est parce que le ministre que Dieu utilise pour corriger, ou l'un des frères, peu importe, corrige principalement le ministère. On ne passe pas notre temps à se corriger les uns les autres, mais on peut travailler ensemble. Si on voit une faute, on en parle aux frères. Mais si on se sent découragé par la correction, c'est parce qu'on ne l'accepte pas correctement, et on doit rectifier cela. Peut-être qu'on se sent découragé par des peurs irrationnelles, et si c'est le cas, c'est clair qu'on craint les choses de cette vie plutôt que de craindre Dieu. Frères et sœurs, le but de tous ces exemples, c'est de montrer clairement que toi et moi, on a un rôle à jouer dans le découragement qu'on ressent. On ne peut pas simplement revenir en arrière, se sentir découragé et dire « Oh, je me sens tellement découragé à cause de toutes les circonstances qui m'entourent. Et je ne peux rien y faire. » Non, le but ici est d'expliquer et de montrer qu'on a personnellement un rôle à jouer dans le découragement qu'on ressent. On doit trouver notre part. C'est comme dans la thérapie de couple, vous savez, souvent, dans la thérapie de couple, on voit des gens, une femme ou un mari, pointer du doigt l'autre et dire « C'est toi qui as fait cela et tu as fait toutes ces choses de travers. » Le mari répond « Non, 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 c'est toi qui as fait toutes ces choses de travers, et tu l'as fait. » Et cela continue comme cela. Et maintenant, il y a 5 ou 6 reproches faits au mari et 10 reproches faits à la femme. Et cela continue comme cela. C'est toujours à propos des erreurs de l'autre. SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 9. Si on inversait les rôles et que tu disais simplement, « Voici ce que j'ai fait de mal, je vais te dire 2 ou 3 choses que tu as bien faites, que tu as faites efficacement. » Tu commences à expliquer cela, et tu arrêtes de pointer du doigt les autres, et tu commences à te pointer du doigt toi-même, et tous les problèmes de mariage disparaissent. C'est assez simple. La thérapie de couple n'a pas besoin d'être très difficile ou complexe. Tout ce que tu as à faire, c'est de te pointer du doigt toi-même et de dire « Qu'est-ce que je fais de mal ici ?» Et tu dis les choses que tu fais de travers. Tu ne dis pas ce que l'autre fait de mal, parce que c'est facile pour nous, en tant qu'êtres humains, de pointer du doigt et de dire « Oh, je suis découragé à cause de toutes les circonstances qui m'entourent. » Plutôt que de dire « Où est ma part de responsabilité ? En quoi est-ce que je manque à mes devoirs, ce qui conduit et provoque le découragement que je traverse ?» Si on se montre du doigt à nous-mêmes, cela résoudra toutes sortes de problèmes et cela éliminera le découragement dans presque tous les cas. Voilà donc le point important. Donc, si on a des peurs irrationnelles, comme je l'ai dit, qui mènent au découragement, ouvrons le chapitre 29 du livre des Proverbes. Où est notre part dans ces peurs irrationnelles qui peuvent causer le découragement? Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, 25 dit, « La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » On peut avoir peur de toutes sortes de choses dans cette vie. On peut choisir d'avoir peur des hommes. On peut choisir d'avoir peur des choses qui nous entourent, des circonstances, ou on peut choisir d'avoir peur de Dieu. Ce qu'on craint nous dira si on est découragé ou non. Parce que je vous le dis, si on craint Dieu, il n'y aura pas de découragement. Il n'y a aucune raison d'être découragé. Si on craint Dieu, Dieu dit qu'il nous donnera la confiance dont on a besoin pour progresser dans la vie. Donc, la crainte des hommes est un piège. Parfois, ce piège se présente sous la forme du découragement. Si on se sent découragé parce qu'on se sent seul et isolé, comprenez que la solitude est une médaille à deux faces. Si vous attendez simplement, mes frères, que les gens viennent à vous et guérissent votre solitude, sachez qu'ils peuvent décrocher le téléphone aussi facilement que vous pouvez le faire. Nous pouvons tous faire mieux pour tendre la main aux autres si nous nous sentons seuls. On n'a pas besoin de s'apitoyer encore plus sur notre solitude en restant assis là boudé et à dire « Pourquoi personne ne me contacte jamais ? Pourquoi les frères ne me tendent-ils jamais la main ?» Non, on a aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Si on se sent seul, c'est aussi facile pour la personne qui se sent seule de décrocher le téléphone que pour celle qui a peut-être beaucoup de relations mais qui aimerait aussi avoir des relations avec quelqu'un qui est seul. Donc, mes frères, mon propos est assez simple. Si on se sent découragé d'une manière ou d'une autre, quelle qu'en soit la cause, regardez-vous et demandez-vous, quel est mon rôle dans tout cela? Premier livre des Rois. Chapitre 19. Vous vous souvenez d'Élie? Premier livre des Rois, chapitre 19. On n'a pas besoin de lire toute l'histoire, mais vous vous souvenez quand Élie était là avec. Reprenons au verset 4. Pardon, au verset 1. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et tout ce qu'il avait fait au prophète par l'épée. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si je ne fais pas de ta vie celle de l'un d'eux avant demain à 7 heures. Quand il a vu cela, il s'est levé, il s'est enfui pour sauver sa vie, et il est arrivé à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il a laissé son serviteur là-bas. Mais lui, il a marché toute une journée SAB 2247-251-1018 à JH Sermon 10 dans le désert, il est arrivé et s'est assis sous un genévrier, et il a demandé à mourir. Il était super découragé par ceux qu'ils essayaient de le tuer. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais me cacher et essayer de chercher. En gros, je veux mourir comme je l'entends, ici. Sous ce genévrier. Et il a dit, c'est assez maintenant, Seigneur, enlève-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et comme il était couché et dormait sous le genévrier, voici qu'un ange l'a touché et lui a dit, lève-toi et mange. Il est seul. Il regarda, et voici, il y avait à sa tête un gâteau cuit sur des charbons et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voilà que la parole de l'Éternel lui vint, et lui dit, « Qu'entends-tu, Élie ? » Et il répondit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et moi, je suis resté seul. » Il est seul. Il se sent seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Et Dieu lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Vous connaissez la suite. Et l'une des façons dont Dieu encourage Élie au verset 18 est de lui dire, « Je me suis réservé 7000 hommes en Israël, Tous ceux qui n'ont pas fléché les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. On sait qu'il y a des aspects prophétiques à cela. Mais le fait est qu'il se sentait seul. Il se sentait seul, et il se complaisait dans sa tristesse, découragé parce qu'il était seul et que les gens cherchaient à lui ôter la vie. Il ne voyait pas la situation dans son ensemble, mes frères. Il ne voyait pas la situation dans son ensemble. Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux 10, 24. Si on se sent seul, frères et sœurs, que peut-on faire pour sortir de cette solitude? Verset 24. Considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais en nous exhortant mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Notre rôle, c'est de nous exhorter les uns les autres. Si on se sent seul, sachez qu'il y a probablement d'autres frères qui se sentent aussi seuls et qui ont besoin d'être encouragés. Allez vers eux. Vous venez de rentrer de la fête, d'un moment merveilleux où vous avez pu rencontrer plein de gens qui pensent comme vous. Restez en contact avec eux, chassez la solitude, et vous ne serez jamais, du moins à cet égard, découragé. Tu ne pourras pas laisser le découragement s'installer. Maintenant, souviens-toi de ce dont on a parlé à propos de l'espoir différé. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Si on vit un espoir différé, quel était notre rôle à jouer? Si on espère quelque chose et qu'on a un désir dans la vie et que celui-ci est différé, où est le problème? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Où serait notre faute si on vit du découragement parce qu'on a eu un espoir différé? Eh bien, parfois, on peut se rendre compte que nos espoirs ne sont pas vraiment en accord avec Dieu. Pense au psaume 42. Le psaume 42. Est-ce que nos espoirs sont en accord avec Dieu et sa volonté? Psaume 42, verset 11. Psaume 42, 11. Pourquoi es-tu découragé? Abattu, comme le dit le mot. Pourquoi es-tu abattu ou découragé, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé en moi? Mets ton espoir en Dieu, car je nourris encore celui qui est la santé de mon visage. Dieu est la santé de notre visage. Si notre visage est abattu et que nous sommes découragés et abattus à cause de cela, SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 11, c'est parce que nos espoirs ne sont pas en Dieu. Nos espoirs ne sont pas non plus en accord avec Dieu. Souvent, on peut espérer certaines choses dans cette vie. Et en réalité, la plupart du temps, quand on espère quelque chose et que cet espoir est différé, cela rend le cœur malade, c'est parce que c'est quelque chose qu'on voulait personnellement. Égoïstement, on a regardé quelque chose, et notre espoir est différé parce que, pour une raison ou une autre, il y a un million de choses différentes auxquelles on peut espérer dans cette vie qui sont finalement destinées à des fins égoïstes. Mettre notre espoir en Dieu ne nous laissera jamais abattus. Dieu nous apportera la santé. Et ce mot « santé-là », il apportera la santé à notre visage. Ce mot « santé » est Yeshua, sauver. Il sauvera notre visage. Il délivrera notre visage. Il aidera ou donnera la victoire à notre visage et à notre prospérité. Yeshua. Quelle façon incroyable de décrire que si on espère en Dieu, plutôt que d'espérer dans les choses de cette vie et de se décourager parce qu'elles ne se sont pas réalisées. Si on espère en Dieu, tout découragement disparaîtra. Il est donc important d'évaluer nos espoirs et de nous assurer de les réaligner avec la volonté de Dieu et son dessein. Et enfin, que se passe-t-il si on traverse une expérience traumatisante et qu'on se décourage parce qu'on a traversé une terrible épreuve? Pourquoi nous sommes-nous découragés si nous avons traversé une épreuve? Souvent, mes frères, La raison pour laquelle le découragement survient après avoir traversé quelque chose de difficile est que nous nous concentrons uniquement sur les choses qui sont temporaires. Nous regardons les choses physiques qui nous entourent et nous ne cherchons pas suffisamment le dessein global de Dieu pour cette épreuve. Il faut un esprit profondément converti pour vraiment prendre du recul et dire, tu sais quoi? Cette épreuve a un but bien plus grand que les choses physiques et les choses physiques que je peux voir autour de moi. Si on croit que Dieu a permis l'épreuve, ou même si on croit que Satan nous a tentés et que, pour une raison quelconque, Dieu a permis l'épreuve, alors on sait que Dieu dit dans Romains 8 verset 28, ouvrons cette page. On sait ce que Dieu dit dans Romains 8 verset 28. Romains 8 verset 28 dit, et nous savons que toutes choses, bonnes et mauvaises, parfois dévastatrices, parfois horribles, parfois très éprouvantes, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu permet certaines choses dans nos vies parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de développer ce caractère puissant en vous que de traverser parfois des épreuves traumatisantes. Quand on traverse une épreuve traumatisante, si on garde les yeux fixés sur la situation dans son ensemble, on ne perd pas de vue la situation dans son ensemble. Ça va produire quelque chose dans notre caractère qui ne peut pas être développé autrement. C'est une chose incroyable à contempler. Laissez-moi le répéter. Si on garde les yeux fixés sur la situation dans son ensemble et qu'on ne se décourage pas parce qu'on traverse une épreuve horrible ou difficile, cela va produire quelque chose en vous, un caractère qui ne peut pas être développé autrement. Mais c'est seulement si on garde à l'esprit la situation dans son ensemble. Alors, mes frères, comment éliminer le découragement? Comment? Il y a un processus que la Bible nous montre, que Dieu nous montre. Si on veut se débarrasser du découragement, Dieu nous a donné un processus étape par étape. Une fois qu'on a compris la cause du découragement, parce qu'on est maintenant équipé, on a tous fait cet exercice. On s'est dit, SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 12. Peut-être que je me concentre trop sur l'approbation des autres. Peut-être que je n'accepte pas correctement les corrections, peut-être que je pêche et que je ne suis pas capable de surmonter cela, et je deviens découragé parce que je vois que je fais sans cesse la même chose et que je ne surmonte pas le péché. J'espère que maintenant, mes frères, nous avons pu faire cet exercice et voir les causes du découragement que nous pouvons ressentir dans nos propres vies. Maintenant que nous avons compris cela, comment pouvons-nous trouver le courage de surmonter le découragement? Psaume chapitre 31. Psaume 31, verset 23. Psaume 31, 23. Aimez le Seigneur, vous tous qui êtes ses saints. Car le Seigneur préserve les fidèles et récompense abondamment ceux qui agissent avec orgueil. Soyez courageux, et fortifiez votre cœur. Vous tous qui espérez en le Seigneur. Le mot « courage » ici signifie « s'accrocher »,« saisir ». Être fort. Considérez-le comme le contraire du découragement. Si on se sent découragé, on se sent faible. On laisse tomber les bras et on a les genoux qui flageolent. Le courage, c'est avoir de la force au sens figuré, être courageux, se fortifier, guérir. Quand on a du courage, quand on n'est pas découragé par quelque chose, on se sent en bonne santé. On se sent guéri. Aider, réparer. Fortifier. Être obstiné. Ça veut dire que rien ne peut jamais te faire changer d'avis. Lier. Restreindre ou conquérir. C'est ce que veut dire le mot courage, conquérir. On ne se sent pas comme des conquérants quand on est découragé. Mais quand on a du courage et qu'on se sent encouragé, c'est là qu'on a l'impression de conquérir. C'est là qu'on a l'impression de vaincre. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Deuxième épître aux Corinthiens, 10, 1. Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la bonté du Christ, qui est présent parmi vous et absent envers vous. Mais je vous exhorte à ne pas être audacieux quand je suis présent, avec cette assurance qui me fait penser que je peux être audacieuse envers certains qui pensent que nous marchons selon la chair. Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On marche dans la chair, frères, on est des êtres physiques. On n'est pas fait d'esprit. On n'est pas né de nouveau, mais on ne marche pas selon la chair. On ne s'engage pas dans l'armée américaine. On ne s'engage pas dans les armées de ce monde, dans les forces militaires de ce monde. On mène un combat spirituel, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, physiques, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. De quel genre de forteresse parlons-nous ? Renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, souvent, notre découragement vient d'un problème dans notre esprit, d'un combat spirituel qu'on doit mener. Dieu dit qu'on doit renverser ses imaginations en utilisant le combat spirituel. Des armes spirituelles. De quelles armes disposons-nous pour mener ce combat spirituel? Verset 6. Et étant prêt à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera accomplie. Quelles sont les armes dont on dispose pour éliminer le découragement? Revenons quelques chapitres en arrière, au chapitre 7, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7. Verset 9. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Maintenant, je me réjouis que vous ayez été attristés, mais que votre tristesse vous ait conduit à la repentance. Excusez-moi, je me réjouis, non pas que vous ayez été attristés, mais que votre tristesse vous ait conduit à la repentance, car vous avez été attristés d'une manière pieuse, afin que vous ne savez 2247-251-1018 AJH sermon 13 subissiez aucun dommage de notre part. Paul était heureux de voir que ses frères étaient attristés par leurs actions. Bon, de quoi on a parlé dans l'intro au début de ce message, jusqu'à maintenant? On vous a parlé des actions qu'on a faites et qui peuvent nous décourager. On a tous fait quelque chose personnellement qui a contribué à notre découragement. La question qui se pose ici est la suivante, pouvons-nous trouver une formule, si je peux m'exprimer ainsi, à utiliser pour aider à traiter ces causes, et c'est ce que nous allons lire ici au verset 10, car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, mais la tristesse du monde produit la mort. Voici la formule. Elle s'appelle les étapes de la repentance. Nous les connaissons tous. Nous les avons déjà parcourues. Mais si on applique ces étapes de la repentance en se concentrant sur le fait de surmonter et d'appliquer ces étapes de la repentance aux choses qui causent notre découragement, mes frères, le découragement disparaîtra tout simplement de nos vies. Et voici les étapes. On va les lire rapidement avant de les revoir plus lentement. Car voyez, cette même chose, que vous avez éprouvée comme une tristesse selon Dieu, quelle sollicitude cela a-t-il produit en vous? Oui, quelle purification de nous-mêmes? Oui, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, finalement, quelle vengeance? En toute chose, vous vous êtes montré pur dans cette affaire. Alors, mes frères, maintenant que nous avons identifié les causes sous-jacentes de notre découragement, écoutez lesquels de ces 7 points peuvent s'appliquer à vous. Peut-être qu'ils s'appliquent tous. Peut-être que certains d'entre eux s'appliquent. Pour certaines des questions qui causent le découragement, on verra que certaines de ces étapes peuvent s'appliquer plus ou moins à ce point. Mais on va les passer en revue, et chaque étape a un moyen de t'aider à surmonter la cause profonde du découragement. Commençons donc par la prudence. La prudence est la première étape. C'est le mot spoude, spoude. Et ce mot, la prudence, signifie la rapidité. Par implication, il signifie l'empressement ou le sérieux. Mais considérez-le comme la rapidité. Maintenant, nous pouvons utiliser la rapidité. Considérez cela comme un outil. Ce sont les armes que nous venons d'apprendre trois chapitres plus loin, au chapitre 10. Nous disposons d'armes dans ce combat spirituel, et la prudence est l'une d'entre elles. C'est ainsi que nous menons la guerre contre ces problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Imaginons donc que le problème que nous avons est de vaincre le péché, et que nous n'arrivons tout simplement pas à le surmonter. Nous ne voyons pas que nous progressons dans la victoire sur le péché. Nous devons utiliser la rapidité pour l'éradiquer. Si nous sommes paresseux et que nous laissons le péché s'installer, nous ne nous en repentons pas. On se contente de, on voit qu'on l'a fait, mais on n'utilise pas la hâte, la rapidité, le sérieux et l'empressement pour s'en débarrasser, on continue à tomber dans ce péché et on se décourage à cause de cela. C'est donc une arme dont on dispose. On a cet outil qu'est la rapidité et qu'on peut utiliser. Passons au chapitre 8 de l'Ecclésiaste, verset 11. On le sait en tant que parent. Si un parent ne corrige pas son enfant tout de suite, surtout un jeune enfant. Mais, en fait, n'importe quel enfant. Si un enfant n'est pas corrigé tout de suite, ce qui va se passer, c'est que ce comportement va continuer. Le mauvais comportement va continuer. Regarde cela. Ecclésiaste 8, 11. Parce que le jugement contre une mauvaise action n'est pas exécuté rapidement, le cœur des fils des hommes est pleinement déterminé à faire le mal. SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 14. Dieu est très patient avec l'humanité. Pour l'instant, il ne punit pas l'humanité, mais comme il ne corrige pas rapidement l'humanité dans son ensemble, que fait-elle? Elle tombe de plus en plus dans le mal, et son cœur est pleinement déterminé à faire le mal. Donc, si on ne veut pas personnellement tomber dans le mal et avoir le cœur pleinement déterminé à faire le mal, on doit étouffer cela dans l'œuf immédiatement. On doit s'y mettre et agir vite. C'est le premier outil que Dieu nous a donné. Il en va de même pour la solitude. Réfléchissez-y. Utilisez cet outil pour lutter contre la solitude. Si on se sent seul et découragé parce qu'on n'a pas la même communion fraternelle qu'on aimerait avoir, agissons vite. Appelez quelqu'un, tendez la main. Prenez l'initiative. Plus vite on met ces choses en pratique, plus vite on va éliminer le découragement qui vient du fait de ne pas surmonter le péché ou le découragement qui vient de la solitude. Voici le deuxième point dans le chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens. Vous pouvez peut-être mettre votre petit marque-page dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7. On y reviendra plusieurs fois avant la fin du message. Le deuxième point est de vous purifier. Le mot « purifiez-vous » est « apologiae ». Qu'est-ce que cela veut dire? La définition d'apologie est une supplication ou une excuse à Dieu. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. » Dieu veut juste qu'on lui demande pardon, qu'on le supplie. Peut-être qu'on cherche l'approbation des autres. Ça pourrait être une des armes que tu utilises si, Imaginons que c'est un problème que tu as et qui te décourage. Si tu cherches trop l'approbation des autres dans ta vie et que tu essaies de leur plaire plutôt que de plaire à Dieu, alors demande pardon. Supplie Dieu de t'aider à changer d'avis. On ne peut plus ignorer le problème sous-jacent. On doit l'affronter de front. Si on cherche l'approbation des autres et qu'on ne se soucie pas de l'approbation de Dieu, alors on doit l'admettre à Dieu et implorer son pardon. Cela vaut pour tout, pour toutes les causes sous-jacentes du découragement. Quelle que soit la cause de notre découragement, on doit voir où se trouve notre problème, où se trouve notre faute, et demander pardon à Dieu. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'indignation. La troisième étape de la repentance, c'est l'indignation. Et ce mot, c'est agenactésis. Ça veut juste dire indignation. Ça vient d'un mot qui veut dire chagrin ou grande affliction. Est-ce qu'on ressent de l'indignation, de la haine pour le péché qu'on commet? Peut-être qu'on continue à avoir l'impression d'échouer à le surmonter, encore et encore. Et on ne voit aucun progrès dans notre vie, ce qui nous décourage. Une façon de sortir de cette impasse est de détester ce qui cause notre découragement. Si vous êtes pris dans un cycle et que vous n'arrivez pas à surmonter quelque chose, cela signifie que vous ne le détestez pas assez. Tu n'as pas assez d'indignation. Tu aimes cette chose plus que tu n'aimes l'arrêter. Ça veut dire qu'on doit avoir encore plus de haine ou d'indignation envers ce péché. C'est pareil si on se compare aux autres, si on est tombé dans le piège de se comparer aux autres, on doit détester cela. C'est mal. C'est aussi mal de chercher l'approbation des autres. Romains chapitre 8, verset 12. Romains chapitre 8, verset 12 dit ceci: C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Car si SAB 2247-251-1018 à JH Sermon 15 vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. C'est le genre de mentalité qu'on devrait avoir quand on s'attaque à une cause de découragement dans nos vies. On devrait vouloir la tuer. On devrait vouloir la mortifier, la mettre à mort, ainsi que sa cause. Si on est pris dans ce cycle où on n'arrive pas à vaincre le péché, on doit le détester et agir. Tant qu'on n'a pas en nous ce sentiment de haine absolue envers le péché qu'on commet, au point de vouloir le tuer ou le mortifier, on ne peut pas le vaincre. Et en fait, on continuera à retomber dans le découragement. La prochaine étape dans les sept étapes de la repentance, c'est la peur. La peur, c'est le mot phobo. Le mot phobie vient de là. Ça veut dire peur, alarme ou effroi. Bon, il y a plein de sortes de peurs dans cette vie, on le sait tous, mais si un des problèmes qu'on a et qui nous décourage, c'est qu'on a une peur irrationnelle, regarde le chapitre 14 du livre des Proverbes. On doit ajuster l'objet de notre peur. Est-ce qu'on craint les choses de cette vie ou est-ce qu'on craint Dieu? Proverbe chapitre 14, verset 26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a une forte confiance, et ses enfants auront un lieu de refuge. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour s'éloigner des pièges de la mort. Dieu nous donnera de l'assurance si on le craint et si on ne craint pas les choses qui nous entourent. Donc, la septième étape du repentir consiste à craindre Dieu. Si on se rend compte qu'on craint d'autres choses, alors notre crainte est injustifiée et elle nous empêchera d'avancer. Elle nous découragera. Mais on doit craindre Dieu, pas les hommes. On doit tourner notre crainte vers Dieu. Et il nous donnera la confiance nécessaire pour surmonter les craintes auxquelles on est confronté. Numéro 5. La cinquième étape du cheminement vers la repentance est le désir ardent. Le désir ardent. C'est le mot épipothésis, qui signifie aspiration. Ça peut aussi signifier aspirer à, adorer ou désirer intensément. Cette arme, on pourrait dire, l'arme spirituelle de guerre, peut être utilisée contre nous si on a un problème avec le mauvais type d'espoir dans la vie. Si on se rend compte qu'on a le mauvais type d'espoir et que notre espoir est différé parce qu'il n'est pas en accord avec celui de Dieu, alors on peut aspirer au bon type d'espoir, celui de Dieu. Pense à Job. Chapitre 6 du livre de Job. Job avait un faux espoir. Job 6, verset 8, similaire à Élie qu'on vient de lire il y a peu. Job 6, verset 8 dit ceci, « Oh, si je pouvais avoir ma demande !» Et que, il avait un espoir. Job avait certainement un espoir, mais c'était un faux espoir. « Oh, si je pouvais avoir ce que je demande, et que Dieu m'accorde ce que je désire !» Espérait-il. Même si Dieu voulait bien me détruire, s'il voulait bien lâcher sa main et me faire disparaître, alors j'aurais encore du réconfort. Oui, je m'endurcirai dans la douleur, qu'il ne m'épargne pas, car je n'ai pas caché les paroles du saint. Job avait aussi des tendances suicidaires. Il était tellement découragé qu'il voulait mourir. Il avait le mauvais type d'espoir, mais comment Job s'en est-il sorti? Quel outil de repentance Job a-t-il utilisé? Chapitre 42, verset 4. Écoute, je t'en supplie, et je parlerai. Je te demanderai, et tu me répondras. J'ai entendu parler de toi, s'adressant à Dieu, j'ai entendu parler de toi par lui, mais maintenant mes yeux te voient. C'est pourquoi je me déteste et je me repens dans la poussière et la cendre. SAB 2247-251-1018 AJH Sermon 16. Job avait un désir ardent, une passion, un désir intense, si on peut dire, de surmonter cet état d'esprit qu'il avait. Il avait des pensées suicidaires. Il avait un état d'esprit moralisateur. Et à la fin de la journée, il s'est vu tel qu'il était et il s'en est repenti. Il a développé un désir intense et un grand désir de surmonter cela. Et si on vit une expérience traumatisante ou difficile, peut-être qu'on a traversé quelque chose de très dur. Regardons le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Colossiens 3. Cette arme, ce désir intense, peut être très utile pour t'aider à traverser cela aussi. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si on a un désir intense, une aspiration à la vision d'ensemble, au plan global de Dieu pour nous, alors toutes les épreuves qu'on traverse seront plus faciles à surmonter. Pas forcément toujours faciles, mais elles seront beaucoup plus faciles à surmonter, et on ne se laissera pas décourager par elles. On verra la vision d'ensemble. On verra le but que Dieu poursuit à travers cette épreuve, parce qu'on fixe notre affection sur les choses d'en haut. Si on se contente de regarder les épreuves qu'on traverse dans la vie et qu'on laisse nos yeux nous dicter ce qu'on doit ressentir, comment on doit vivre, alors on sera découragé à chaque fois. Mais si on regarde au-delà de ces épreuves, vers le but plus grand que Dieu a pour elles et le caractère qu'elles forgent en nous, cela rendra ces épreuves beaucoup plus faciles à traverser, et on ne se laissera pas décourager, parce qu'on a un désir ardent et une aspiration à voir la situation dans son ensemble. La sixième étape de la repentance est celle du zèle. Le mot est zélo, et il signifie chaleur, avoir de la chaleur, être chaud. Il vient d'une racine qui veut dire être chaud, bouillir, briller ou être fervent. Réfléchis-y. Quand on nous corrige, on peut utiliser cette arme. On peut utiliser le zèle. Si on n'accepte pas très bien la correction, utilisons cette arme qu'est le zèle. On peut recevoir la correction de deux façons. On peut la recevoir avec le bon type de zèle ou avec le mauvais type de zèle. Qu'est-ce que je veux dire? On peut soit s'échauffer, se mettre en colère et avoir un zèle de colère parce qu'on a été corrigé pour avoir eu une mauvaise attitude et finir par se décourager à cause de cela. Soit on peut s'échauffer et se mettre en colère contre le péché qu'on a commis et qui a conduit à cette correction, et utiliser cette passion qu'on a pour réparer ce pourquoi on a été corrigé, et l'utiliser pour surmonter le problème. Donc, mes frères, voilà les 6 étapes de la repentance. Et la 7e étape est assez simple. Ce n'est rien que vous ou moi puissions faire. C'est juste le résultat d'avoir suivi les 6 étapes précédentes de la repentance, et c'est se venger du péché. Quoi que ce soit que nous voyons en nous-mêmes dont nous devons nous repentir ou que nous devons changer, qui nous décourage, si on applique ces 6 premières étapes, on se vengera de cette chose et on ne se sentira plus jamais découragé à cause d'elle. On prendra notre revanche sur les problèmes sous-jacents qui ont causé le découragement, et on aura trouvé le courage de surmonter tous les problèmes qui y conduisent. Alors, mes frères, pour conclure, prenons à cœur le grand dessein que Dieu réalise en nous. Il nous a donné des émotions, et on peut parfois se laisser emporter par elles, mais si on voit le signe avant-coureur du découragement dans notre vie, ne le considérons pas simplement comme un malheur. Ce n'est pas grave. Il est normal d'être découragé. Voyez-le comme une SAB 2247-251-018-AJH Sermon 10 7 fissures dans le mur qui indique qu'il y a un problème plus profond, un problème sous-jacent. C'est ce problème qui cause ce découragement, et nous pouvons le résoudre. Ne pointez pas du doigt les autres. Pointez plutôt le doigt vers nous-mêmes. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais qui mène à ce découragement? Et mes frères, une fois qu'on a appliqué ce principe et qu'on a trouvé la cause profonde du découragement qu'on ressent dans la vie, prenez à cœur chacune de ces 7 étapes du repentir, et, mes frères, vous aurez la revanche que vous désirez.